Vous êtes à l'écoute de Brume 90.7, nouvel entretien Confluence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Simon, qui est cofondateur de l'association Dolus et Dolus, qui organise bientôt la seconde édition du Mirage Festival. Salut à toi, Simon.
Salut.
Merci de nous rejoindre dans les locaux de Radio Brume. Alors, bien sûr, on va parler de ce fameux festival qui arrive dans peu de temps, avec on va détailler un petit peu la programmation et tout ce que vous allez présenter cette année. Et avant ça, on va revenir un petit peu sur l'histoire de Dolus et Dolus, du coup, de cette association qui mêle un peu musique actuelle, aussi création audiovisuelle.
Ouais, tout à fait. Bah, Dolus et Dolus, donc ouais, à la base, c'est une association qui a été créée en fin 2008. Dans le but, nous, on avait tous fait un peu des études dans l'organisation de projets culturels et on avait envie de, en parallèle de nos tafs, de pouvoir avoir une structure qui nous permette d'organiser des événements comme on avait envie de le faire. Donc du coup, on a commencé par organiser plutôt des soirées autour des musiques actuelles, en effet, de la musique électronique, alors avec différents styles, avec toujours une volonté que dans nos soirées, il y ait aussi une scénographie. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a essayé de bosser avec des illustrateurs, des architectes, différents types de gens pour que nos soirées soient plus une sorte de concept. De fil en aiguille, on a continué à développer le principe. On a fait aussi des soirées un peu en dehors de la France, en Belgique, en Suisse et ailleurs, en fonction de nos plans respectifs. Et puis, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et du coup, on a décidé à un moment, il y a 2 ans, d'en faire une activité professionnelle à plein temps. Donc du coup, on a eu forcément une activité plus grande, notamment en termes de type de projet qu'on a mené. On est revenu à Lyon, on a continué à mener des projets autour de la musique, notamment en participant à des soirées avec les Nuits Sonores, en faisant un peu d'accompagnement d'artistes aussi, lyonnais et autres, qu'on a un peu suivi et aidé à développer.
C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y avait aussi cette idée d'avoir des artistes un peu que vous soutenez.
Ouais, tout à fait, ça s'est fait un peu de fil en aiguille en fait. Il y a eu les gens avec qui on était autour dans les premières soirées qui étaient lyonnais, notamment des gens comme Dooster, Jayweed et autres qui sont autour de musique électronique. Après, on a un peu élargi, on s'est retrouvé aussi à faire du booking pour des artistes en dehors de Lyon et même américains, notamment autour de. On s'était un peu spécialisé, un peu par hasard, enfin en tout cas en fonction de nos goûts, sur les esthétiques électro-tropicales, donc tout ce qui mêlait musique électronique et musique plus traditionnelle, type cumbia, kuduro, toutes ces choses. Ça a duré un temps, et du coup, on a organisé des tournées pour des artistes comme Protendi ou Chief Boyma, ce genre de gens. Et puis, de fil en aiguille, on a moins bossé là-dessus, parce que c'est pas forcément la partie du travail qui nous intéressait le plus, et on s'est vraiment recentré sur l'organisation d'événements portés par l'association.
Et alors du coup, vraiment une des particularités de Dolus et Dolus, en tout cas de ce que vous avez pu proposer, c'est vraiment ouais, de mêler aussi la scéno, tout ce qu'il y a aussi autour de l'image, quoi, et pas seulement que du son, parce qu'on sait que Lyon, notamment, c'est aussi une ville où il y a pas mal de soirées, de festivals, de petites choses qui se font au niveau son, mais c'est vrai que vous, c'est aussi vraiment cet alliage un peu de l'image et des créations sonores.
Tout à fait, ouais, non, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressé en fait. Alors, il y a eu l'image, il y a eu aussi d'autres formes de scénographie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours nous apprécié, c'était de se dire que nos soirées étaient, ouais, voilà, un concept assez global et qu'on venait pas juste écouter du son et consommer un peu du son, mais qu'on avait un concept un peu plus global. Du coup, on a développé ça. Donc ouais, il y avait eu On a fait différentes scénos et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles nous on a toujours été assez sensibles parce que c'était aussi on aimait bien ça et que on s'est vite posé aussi la question par rapport à l'image des contenus et de ce qu'on y mettait parce que voilà il y a eu un moment il y a quelques années où le DJing s'est quand même bien démocratisé où on n'a pas toujours vu l'intérêt que ça pouvait forcément porter en fonction des contenus qu'on avait. Donc on s'est assez vite intéressé et aussi on a été, par nos expériences, notamment le deuxième qui n'est pas là aujourd'hui, Jean-Manu, qui a bossé beaucoup à Genève, dans un lieu qui s'appelle le Zoo, où ils ont eu très vite une culture de l'image, et notamment avec des festivals, on en reparlera après, comme le Mapping Festival, qui ont tout de suite réfléchi à ce qu'ils voulaient diffusé comme image et à des concepts plus globaux de soirée. Et ça nous a assez, nous aussi, intéressés. On a essayé de reproduire un peu ça, enfin, en tout cas, à notre manière, mais de l'exporter un peu sur Lyon et ailleurs.
Et alors, tu peux nous présenter justement un petit peu donc ton coéquipier et on va dire les autres personnes aussi qui bossent de près ou de loin, en bénévole ou en artiste ou en salarié avec vous, un petit peu la team Dolus et Dolus.
Oui, bah du coup, à la base, on était trois. Il se trouve que maintenant, on est deux. Donc, on est deux. Bah, à la base, on s'est connus, Jean-Manu et moi, donc à la fac. On était étudiants tous les deux à Lyon 2 dans un master de gestion de projets culturels. Voilà, on était d'abord potes, et puis de là, on s'est dit qu'on avait des affinités communes et envie d'essayer de monter des projets. Donc c'est vraiment l'impulsion, elle est venue de là. Après, il y a plein de gens, évidemment, qui gravitent autour le bureau. Alors, il y a vraiment des gens de différents horizons. Il y a des gens qui sont du milieu culturel, parce que, bah, de fait, ayant travaillé dans ces milieux-là, ayant fait nos études là-dedans, on a quand même pas mal de gens autour de nous qui sont autour des milieux de la musique, de la vidéo et de toutes ces pratiques-là. Mais il y a aussi des gens plus éloignés, parce que ça nous intéresse toujours aussi d'avoir des expériences un peu plus diverses et de voir aussi un peu d'autres gens. Il y a notamment toute une partie de gens qui travaillent beaucoup avec nous, et notamment sur le Festival Mirage, qui sont des gens qui ont fait l'INSA, donc qui sont des ingénieurs qui n'ont pas du tout le même type de formation que nous et qui ont des compétences techniques qu'on n'a pas nous, et du coup qui sommes assez complémentaires parce que nous, on sait monter et mettre en place des projets, et eux, à l'inverse, ont des compétences techniques qu'on n'a pas du tout. Donc là-dessus, on est assez complémentaires, et c'est vrai que c'est assez intéressant d'arriver à trouver des gens qui viennent d'horizons différents pour essayer de faire en sorte de travailler ensemble au mieux en fonction des compétences de chacun.
Et alors, il y a des musiciens ou des vidéastes en particulier avec qui vous travaillez régulièrement, donc que ce soit sur le festival, mais même sur d'autres organisations d'événements?
Il y en a eu avec le temps, mais j'en parlais tout à l'heure, mais des gens comme Dooster, donc qui est lyonnais, ou Jay Weed aussi, on a fait pas mal de trucs avec eux. Après, on est ça dépend vraiment, parce qu'on travaille vraiment avec on a travaillé avec d'autres associations aussi, type Bebop, qui était un label, enfin qui est un label toujours, avec lequel on fait pas mal de choses. Après, nous on n'est pas du tout fermé dans les collaboration qu'on mène, donc on a pas mal bossé avec des structures lyonnaises, mais on n'a pas de... Enfin voilà, on travaille vraiment de manière très ouverte, et on essaie de changer régulièrement aussi les gens avec lesquels on travaille.
Les partenariats, ouais. Quoi. L'idée, c'est un peu à la fois d'avoir des gens sur qui vous comptez et que vous soutenez, des jeunes créateurs du coin ou des lieux, et en même temps, comme tu disais aussi, d'aller à Bruxelles, à Genève, faire aussi des partenariats avec des artistes un peu mondialement... connus, on va dire, ou en tout cas qui sont un peu...
C'est vraiment ça. Bon, on a toujours eu ce truc d'essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir des rencontres et qu'au travers des événements qu'on organise, il y ait une dimension de gens locaux à qui ça donne la possibilité de jouer et de rencontrer aussi des artistes un peu plus reconnus d'ailleurs, et qu'il y ait un échange qui, dans le cadre des événements qu'on organise, puisse se passer.
Alors, au niveau du fonctionnement, du coup, y a des structures à Lyon ou des lieux, justement, pareil, avec lesquels vous organisez plus de choses ou d'autres collectifs un peu avec qui vous êtes en cheville?
Honnêtement, il y en a beaucoup. Après, je vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier et du coup, peut-être qu'ils le prendront mal. Mais non, ça dépend vraiment des périodes. Clairement, on a des lieux avec lesquels on fait des choses, notamment dans le cadre du festival, avec lesquels on s'entend bien, je pense, parce que j'étais avec eux tout à l'heure, le Lavoir Public, par exemple, qui est dans les Pentes, avec lequel on fait pas mal de choses, on s'entend bien. Après, il y a des salles avec qui on s'est toujours bien entendu, type le Transborder. Il y a des organisations comme les Nuits Sonores, avec qui on a fait des choses régulièrement aussi. Il y a des collectifs plus petits, je pense à, j'ai cité Bebop, Arfist, CLFT. Enfin, ça dépend vraiment. Il y a aussi Total Res, avec lequel on avait une carte blanche sur leur festival Rumble l'année dernière. On est vraiment ouvert et friand de partenariats, tout en gardant aussi, nous, notre identité, et voilà, en ne voulant pas être associé strictement à une seule structure et à un seul type de partenariat.
Ok, bah écoute, on va écouter un premier son, et puis on se retrouvera après. On se retrouve juste après pour parler un petit peu de ce qu'il y aura dans ce festival.
Nani. L'entretien.
Voilà, nous sommes toujours avec Simon de Dolus et Dolus pour le Mirage Festival qui se tiendra donc du 19 au 23 février 2014 à Lyon. On va explorer un petit peu ce festival, la programmation de cette année. Donc ça attaque le mercredi 19.
Ça attaque le mercredi 19. Hein, juste pour replacer, parce que du coup on a encore une jeune manifestation. Donc le Mirage Festival, c'est un festival autour dont des arts numériques et de l'audiovisuel. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens de découvrir un peu ce qui est possible de faire avec tous ces nouveaux médias, puisque c'est quand même pas mal de possibilités. Et c'est ça, c'est sur 5 jours, entre le 19 et le 23, d'essayer de proposer différentes formes artistiques qui permettent un peu d'y voir plus clair, tout en restant abordable dans le prix et dans les types de propositions qui sont faites.
Du coup, il y a à la fois des concerts, des installations, des expos. Il y a pas mal de formes différentes,
ouais,
un peu.
C'est ça, il y a des installs qui sont donc en accès libre dans des galeries. Il y a des performances audiovisuelles. Il y a des soirées avec de la musique. Il y a des workshops. Il y a 3 workshops différents. Et il y a aussi une journée professionnelle avec un cycle de conférences.
D'accord. Du coup, ouais. ça démarre comment un petit peu le premier jour?
Ça démarre le mercredi 19, donc avec une inauguration au Musée des Beaux-Arts, dans le réfectoire du Musée des Beaux-Arts, avec une installation d'étudiant suisse qui s'appelle Benjamin Musin, l'installation s'appelle Full Turn. C'est le principe du tomatrope. Le tomatrope, du coup, c'est l'idée d'avoir... en gros, c'est donc un écran, parce que c'est du numérique, c'est deux écrans dos à dos qui tournent très vite sur eux-mêmes et qui donc forment une image un peu sous le principe de l'hologramme, en fait. Donc du coup, le fait de tourner très vite forme une image qu'on peut voir à partir du moment où l'objet, les deux écrans dos à dos sont lancés. Ça se passera donc, c'est la première des propositions qui se passe le premier soir du festival, donc le 19, au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Qui après continuera, je ne sais pas si on fait un détail complet, on va peut-être...
Détail, on va dire, ce qui peut être peut-être le plus important, ouais. De mentionner, ou sur certaines choses, on peut passer peut-être un petit peu plus vite. De toute façon, juste pour info, c'est possible de retrouver... toutes ces informations sur le site d'Olus et Dolus.
Tout à fait. Alors sur le site, il y a un site dédié. Depuis le site d'Olus et Dolus, on peut le trouver. Mais il y a un site dédié dont l'adresse est assez simple. C'est www.miragefestival.com. Donc même sur Google, vous tapez Mirage Festival et vous trouverez. Mais voilà. Je vais peut-être faire un truc un peu plus large. Ce qui, à mon avis, est intéressant de voir aussi, c'est que, comme l'année dernière, on réorganise cette année un parcours. Il y a quatre galeries des pentes de la Croix-Rousse qui sont investies et quatre installations différentes en accès libre. Donc, du coup, tout est gratuit. Donc, c'est un bon moyen de venir voir un peu ce qui se passe. Où là, il y a quatre installations différentes, donc une qui s'appelle Murmure, qui sera la Sunset Residence, qui est rue des Tables Claudiennes, qui est faite par un studio qui s'appelle Cheval Vert, un studio de graphisme, qui en fait est une espèce de retranscription du son par l'image. Donc c'est assez intéressant et le rendu visuel est assez bluffant. Il y en a une autre qui s'appelle Extrapolis, qui est du dessin augmenté. Donc le dessin augmenté, c'est l'idée d'avoir un dessin fait... d'avoir un dessin sur lequel on fait de la projection qui permet d'animer ce dessin. Il y a deux autres galeries, je vais pas vous faire un truc exhaustif.
Mais c'est vrai que c'est important. Moi j'ai l'impression au Mirage l'année dernière, ce que j'avais pu voir au Lavoir ou aussi Montée Saint-Sébastien là dans le petit atelier et tout, c'est qu'on sent aussi que vous aimez bien ces choses de un peu petit atelier de création, un petit peu de laboratoire presque de musique, de forme, de son et tout ça, quoi.
Ça nous intéresse vraiment, ouais, cette idée de processus de création et de voir un peu comment ça se passe. Et ce qui nous intéresse dans ce festival, c'est vraiment un truc qui est important à préciser, c'est qu'il y a dans les formes et dans les formes qui sont présentées, c'est vraiment très différent. C'est-à-dire que ces installations dans les galeries, c'est des choses assez petite, assez intimiste, qu'on va voir à pas très nombreux. Enfin, en tout cas, on peut prendre le temps de rester, de voir un peu comment ça fonctionne. Après, il va y avoir des choses avec des plus grandes institutions, type dans des performances, notamment celle qui va se passer au Grand Temple ou celle qui va se passer à l'amphithéâtre de l'Opéra, où là, c'est plus des formes, donc un spectacle audiovisuel qu'on vient voir. Il y a, pendant, tu parlais du Lavoir, en effet, on continue cette année à faire des explorations numériques au Lavoir, donc c'est vraiment l'idée d'avoir plein de petites formes. Il y a des gens, par exemple, comme Guillaume Hugon, qui viendront présenter en partenariat avec Kiblind du Phone Art. Donc c'est des gens qui, à partir de smartphones, ont développé... des formes artistiques. Il y aura une appli qui s'appelle Dray aussi, qui sera sur iPad, qui sera aussi montré le dimanche 23, où on pourra venir juste jouer, un peu se divertir. Donc c'est vraiment l'idée que on puisse voir différentes formes, qu'on soit curieux et qu'on découvre un peu des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué à être confronté, en tout cas pas dans un cadre de festival culturel.
D'accord. Et alors du coup, au niveau des soirées, un petit peu des premières soirées du mercredi et jeudi?
Alors au niveau des premières soirées du mercredi et jeudi, y a donc après cette inauguration au Musée des Beaux-Arts, les explorations numériques commencent au Lavoir, avec qui sera présentée sous forme d'une performance Crystal Ray par My Square, qui est l'idée, c'est que c'est des diamants sur lesquels on projette du laser. ce qui donne du coup une installation performative, parce qu'il y a du son aussi, qui donne quelque chose d'assez intéressant à voir, et dans un cadre, le Lavoir, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est vraiment à découvrir, parce que c'est un lieu très sympa dans les pentes, et qui a vraiment une âme, puisque du coup c'est l'ancien lavoir public du premier arrondissement de la ville de Lyon. Ça, c'est pour le mercredi. Le jeudi, il y aura le premier cycle de... Donc, le jeudi soir, les différentes installations dont je parlais dans les galeries font leur vernissage à 18h30. Donc là, c'est le moyen, pareil, d'aller découvrir ces quatre installations différentes dans les pentes de la Croix-Rousse. Et il y aura, par la suite, la première soirée de performance avec... deux projets, un qui s'appelle qui est mené par CT4C, qui est un groupe lyonnais qui est un peu à la base projette, c'est plutôt de la musique. Eux, ils sont plutôt de l'ambiance un peu jazz, noise, enfin des choses un peu différentes de ce qu'on peut attendre sur les arts numériques, mais qui ont toute une partie de vidéos avec un des membres du groupe qui fait en direct, qui produit des contenus vidéo qui sont projetés en direct pendant que le groupe joue, et qui sera accompagné par Suga, qui est un artiste portugais qui viendra présenter sa performance qui s'appelle Transflora. Donc ça, c'est la salle Garcin qui est juste à côté du Lavoir, donc c'est un bon moyen justement de pouvoir faire d'une pierre deux coups sur cette première soirée du jeudi.
Et alors, quand vous faites la programmation un petit peu, du coup c'est toi et Jean-Manu qui allez chercher un petit peu les gens, ou on commence à vous proposer des choses aussi, parce que du coup c'est vrai que c'est voilà 4 jours, et en même temps on voit qu'il y a, énormément de choses, et c'est j'imagine que c'est quand même un gros boulot aussi à créer, quoi. Il n'y a pas une seule scène avec des artistes et tout. C'est quand même un sacré labyrinthe de création, quoi.
C'est clairement un sacré labyrinthe. Alors, sur la programmation, c'est plutôt Jean-Manu qui s'en occupe. On la valide à deux, mais c'est quand même lui qui plutôt cherche en amont. C'est clairement l'idée, c'est qu'il faut arriver à trouver des choses qui soient un peu étonnantes. En même temps, c'est un peu une grande jungle parce qu'il y a beaucoup de choses. On commence, et c'est plutôt agréable parce que ça veut dire que les gens commencent à un peu identifier la manifestation, à être sollicités aussi par les artistes pour qu'ils puissent venir jouer. Donc c'est un savant mélange à trouver entre... Et c'est vraiment aussi la dimension première du festival. Si on a créé ce festival, c'est aussi parce qu'on voulait qu'à Lyon, il y ait un événement autour de ces pratiques qui puisse permettre une rencontre entre des artistes qui sont issus de la scène lyonnaise, des artistes qui sont issus de la scène nationale, de la scène internationale, et notamment aussi avec de la scène suisse, parce qu'on a depuis le début un partenariat, j'en parlais tout à l'heure, avec le festival Mapping, qui est un festival qui œuvre autour des arts numériques audiovisuels depuis maintenant. Ils vont fêter leur 10e édition cette année, et avec qui on avait envie aussi de travailler, parce qu'on aime bien leurs esthétiques, et qu'on se disait que c'était intéressant, à travers le festival lyonnais et celui en Suisse, de pouvoir aussi créer des échanges entre les artistes suisses et rhône-alpins, parce qu'on n'est pas très loin géographiquement, mais du coup, les échanges ne sont pas très fréquents. Donc voilà, du coup, c'est un espèce de mélange entre des artistes locaux à qui on a envie de donner la perspective et la possibilité de se produire devant un public et qui puisse être un peu reconnu, qui visait l'occasion de rencontrer des artistes internationaux, et que le public y trouve son compte aussi, parce que c'est quand même aussi le principal sur type de manifestation.
Alors du coup, écoute, on va écouter un deuxième son, et puis on se retrouve après pour une troisième partie où on détaillera un petit peu les derniers jours de Festival Mirage. We'll be right back.
Confluence, l'entretien.
Confluence Mirage Festival. Alors du coup, tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on vient d'entendre là ?
Ouais, c'est du coup c'est des gens qui sont issus. C'est Fulgence qui est issu du label Musique Large, qui sera la soirée du vendredi soir au Sucre. Qui là pour le coup, donc c'est un label français qui œuvre depuis plusieurs années autour de d'esthétique, on va dire, électro-hip-hop, donc c'est assez large, c'est assez frais, et du coup, ce sera la soirée du Mirage Festival, donc la première au Sucre, le vendredi 21, et qui sera, c'est important de le dire, parce qu'on en parlait tout à l'heure par rapport aux scénographies, donc il y a deux soirées musicales, donc le vendredi et le samedi, et qui sont accompagnées d'une scénographie qui sera, qui sera faite pour l'occasion, par Adrien Jolivet et Alain Barthélémy, et qui là transformera le club, parce que c'est aussi ce qu'on voulait faire, c'est que pour que ça prenne sens dans le cadre du festival, les soirées évidemment sont... Il y a des scénographies avec email, l'aide et vidéos, et je pense que ça devrait valoir le détour, et ça vaut le coup de venir voir ce qui s'y passera.
Alors du coup, le vendredi, il y aura aussi pas mal d'autres petites activités et performances.
Oui, tout à fait. Le vendredi, pour faire un peu court, c'est une journée déjà relativement chargée. Parce que c'est aussi important pour nous, comme je le disais, qu'il y a des rencontres et que les artistes et le public et les professionnels aient l'occasion de se rencontrer. Donc il y a une journée professionnelle qui est organisée à l'INSA. Donc l'INSA de Lyon à la Doua, avec une matinée de conférences et une après-midi un peu plus informelle autour d'échanges. C'est un programme qui s'appelle Radar, qui permet à des artistes de se rencontrer et un peu d'échanger sur leurs problématiques techniques dans le cadre de la réalisation de leur projet artistique. Donc ça, c'est ouvert et c'est assez intéressant. Ça permet d'échanger sur comment les artistes pratiquent, quelles sont leurs problématiques et comment on peut essayer de les régler ensemble. Après, par la suite, il y a les installations sont toujours en libre accès et il y a une performance qui est importante, qui vaut vraiment le détour, qui se passera à 20h30 au Grand Temple protestant. Le Grand Temple protestant, donc c'est, comme son nom l'indique, un lieu de culte qui est sur les quais, le quai aux Gagneurs en face de la plateforme, qui est, donc, qu'on loue pour l'occasion, qui est vraiment un lieu qui vaut la peine d'être vu et qu'on avait loué déjà l'année dernière pour faire une performance. Et il y aura la performance de Ryoichi Kurokawa qui s'appelle Sin, qui est un concierge audiovisuel. Ryoichi Kurokawa, c'est vraiment quelqu'un qui a quand même une belle renommée dans le milieu et qui fait vraiment des très belles choses, qu'on est très content de l'accueillir. Et donc il présentera sa performance Sin, qui présente ça comme un concert audiovisuel. Donc c'est deux écrans sur lesquels il a des contenus vidéo et sur lesquels il y a de la musique. Je pense que dans le lieu du temple, ça vaudra vraiment le résultat devrait vraiment être chouette. Donc je ne peux que vous conseiller d'y venir.
Et alors, petite parenthèse, juste comment vous avez trouvé ce plan du temple et tout ça, c'est
rigolo. Et c'est assez improbable. En fait, on connaissait l'autre partenaire. Ça me permet justement de... D'ailleurs, j'ai oublié de les citer et je m'en excuse. Ça me permet de le faire. La journée professionnelle donc, est organisée en partenariat avec une structure qui s'appelle AADN, qui travaille autour des arts numériques à Lyon depuis un moment. Et eux avaient organisé, dans le cadre d'un événement, il y a longtemps, quelque chose au temple. Et du coup, nous, on est allé voir l'organisme du temple, qui est très ouvert à ce type de projet, qui est vraiment dans une attitude très positive par rapport à tout ça, de dire qu'il faut que le lieu vive, il faut qu'il s'y passe des rencontres artistiques et que les gens puissent profiter de ce lieu et qu'il y ait vraiment une vie à ce lieu. Donc voilà, ils ont une politique assez ouverte d'événements. Et c'est un lieu, pour ceux qui l'ont déjà vu, il y a un or qui doit faire, je ne sais pas, peut-être 5 mètres de haut, enfin, c'est très impressionnant. Il a été refait il y a 2 ans, je crois, maintenant. Donc voilà, du coup, on a présenté notre projet, ça leur a plu. Donc on a décidé d'y refaire quelque chose cette année parce que le lieu est vraiment assez magique. Donc l'association entre Ryoichi Kurokawa et le temple devrait donner quelque chose d'assez intéressant.
D'accord, alors du coup, on va partir un petit peu sur les deux derniers jours. Du coup, le samedi, dimanche, qu'est-ce qu'il y aura encore de beau au programme ?
Alors le samedi, pareil, donc il y aura les installations restent toujours en accès libre. Il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le Fun Art avec Guillaume Hugon et le collectif Golgotha au Lavoir, donc L'idée, c'est un peu de détourner le simple usage du téléphone et justement de se demander comment on peut en faire aussi un usage artistique et quelles sont les possibilités qui nous sont offertes. Donc ça, c'est un, eux, leur, ce collectif-là travaille vraiment autour de ces notions-là et fera une petite exposition participative et permettra aux gens aussi un peu de tester, de regarder un peu les possibilités qui sont offertes. Il y aura aussi, on est assez content de pouvoir y faire quelque chose, une performance à l'amphithéâtre de l'Opéra. L'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, avec un artiste qui s'appelle Noitou et un collectif de Parisiens qui s'appelle Nonotac qui présenteront Late Speculation, qui est aussi un spectacle qui mêle musique et vidéo. En fait, ils sont dans un triangle de... Il y a des projections, ils sont à l'intérieur d'un triangle de tulle sur lequel il y a des projections et eux font de la musique en live, donc ça devrait être aussi pas mal. Et c'est un peu le... Voilà, la dernière soirée du festival se passera aussi au Suc comme la première avec le label Delsin hollandais autour d'une soirée techno qui se passera. Donc pareil, il y aura toujours cette même scénographie qui sera là. Donc du coup, on a essayé de faire deux soirées différentes au Sucre, une qui est plus électro-hip-hop et la deuxième qui est vraiment plus techno, pour qu'il y ait un peu des esthétiques différentes et que les gens puissent y trouver leur compte. Donc là, ce sera voilà.
Musicalement, vous n'êtes pas raccroché spécialement à un style musical vraiment précis, quoi.
Non, on a toujours voulu... on écoute différentes choses. On a toujours... vraiment, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les partenariats qu'on a fait avec Dolus. Nous, on a toujours été ouverts à pas mal de choses. Et après, évidemment, on reste dans des esthétiques plutôt autour de la musique électronique plus que du rock ou du folk, ça, c'est sûr. Mais dans cette variable-là, on est quand même très ouverts. Et justement, voilà, ça nous paraît intéressant que ce festival est vraiment... quelque chose qui a envie, enfin une manifestation qui est ouverte et qui est pluridisciplinaire, donc ça nous paraît intéressant que justement, même musicalement, cette ouverture se retrouve et que les gens puissent, selon leur goût, trouver un peu leur compte dans ce qu'on propose, quoi. Et j'en profite parce que j'en ai pas parlé pendant, j'ai pas fait le détail, mais pendant toutes ces 5 jours, il y a 3 workshops dont j'ai parlé qui sont un peu à cheval sur les différentes journées qui permettent de. Des initiés ou pas, de découvrir un peu ces pratiques autour des arts numériques et de ce qu'on peut en faire. Alors, il y aura quelque chose autour du mapping, donc de la projection sur des volumes. Il y aura quelque chose autour, mené par Lionel Radisson, autour du graphisme génératif. Et un dernier atelier qui sera monté justement en partenariat avec la structure ADN, autour de petits systèmes de vidéos, en fait, de vidéoprojection autonome qui permettent de vidéoprojeter dans la rue avec un système de batterie autonome. Donc voilà, qui sera présenté le soir de l'inauguration, qui montrera un peu ce qui est pareil, ce qu'on peut faire en termes de projection vidéo avec des systèmes autonomes.
Et alors, comment ça se conclut du coup le dimanche, un petit peu les dernières...
Alors ça se conclut de manière assez cool parce que du coup on aura déjà eu un programme assez lourd et notamment les 2 soirées au Sucre et la deuxième qui devrait faire en sorte que tout le monde sera, si tous les festivals s'y l'ont fait, un peu fatigué. Donc ce sera au Lavoir, ça continuera avec une application sur iPad qui s'appelle Drake, qui est clairement un jeu et du coup pareil, il y aura des iPads à disposition pour que les gens puissent venir... un dernier moment sur le festival, finir tranquillement. Et il y aura aussi les installations dont j'ai parlé dans les galeries de la Croix-Rousse qui seront encore ouvertes de 14h à 18h, donc qui permettront pour les gens qui n'ont pas eu le temps de le voir, de venir en famille. C'est vraiment ça qui nous a plu aussi l'année dernière, quand on dit qu'on veut faire un événement ouvert. C'est qu'on a réussi à avoir des publics vraiment différents. Et
tu as eu justement un petit peu un bilan? Vous avez pu savoir un peu combien de personnes étaient passées? Vous avez été content de la première édition?
Ouais, on a été très content de la première édition. Honnêtement, et sans prétention aucune, elle a été même un peu au-delà de nos espérances. En termes de public, on a estimé ça autour de 3000 personnes qui sont venues. Donc pour une manifestation, vu que c'était une première édition sur des formats qui sont un peu hybrides et pas forcément très connus, c'était un très beau chiffre, et d'autant plus que vraiment, comme je le disais tout à l'heure, les publics selon les propositions qui ont été faites ont été vraiment très diversifiés. Il y a eu des plus jeunes, des plus vieux, des étudiants, des gens plutôt branchés art, des gens plutôt geeks qui venaient et qui du fait que on pouvait voir différentes choses aussi pas mal gratuitement, ce qui quand même toujours quand on sait pas ce qu'on va voir forcément toujours un peu plus encourageant, ont vraiment répondu présent, donc ce qui nous a vraiment convaincu que cet événement avait sa place et que ces pratiques là intéressaient les gens mais qui ils mesuraient pas forcément toutes les possibilités que ça pouvait offrir. Donc Donc c'était intéressant pour nous et pour eux aussi de leur proposer ce genre de choses et de les engager à être curieux sur une semaine. Et de ramasser ça sur une semaine, ça permet aussi aux gens de, voilà, de se dire « Ok, bah là, c'est un point important autour de ça qui est fait sur une semaine. Donc je vais aller faire un tour et je vais aller un peu voir ce que ça donne. »
Et alors du coup, dans le futur, l'idée, c'est de continuer ou parce que c'est pas forcément facile, surtout dans ce type de création aussi autour des musiques actuelles, autour des disciplines que vous mettez en avant, de s'enraciner un peu. Et du coup, vous avez vraiment envie de relever ce défi ou l'idée, c'est de, voilà, peut-être plus après repartir sur des soirées
Non, nous, on a vraiment envie de relever ce défi parce qu'on le pense... On le pense pertinent, donc on a vraiment envie d'essayer de continuer à travailler dans cette voie. D'autant plus, comme je le dis, que voilà, les partenaires avec lesquels on a travaillé, les gens qui sont venus au festival, les artistes qu'on a accueillis, ont été contents et ont envie de revenir. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'on est quand même plutôt dans le vrai. Après, je ne peux pas vraiment présumer à terme de ce que ça va devenir, parce que ça ne dépend pas que de nous. Évidemment, on est aussi dépendant de la fréquentation, des subventions qui nous sont allouées, parce que voilà, on ne peut pas faire ça tout seul dans notre coin. Et notamment parce qu'on veut continuer à ce que ce soit un événement ouvert donc avec, et accessible, donc avec beaucoup de choses gratuites et même les choses payantes. Voilà, les performances, elles sont à 10 euros, donc ça reste des tarifs quand même tout à fait abordable. Donc ça, c'est sûr que je ne peux pas présumer dans le temps de ce que ça va devenir, mais on a quand même vraiment envie de continuer là-dedans. Et voilà, on se rend compte aussi qu'on peut trouver aussi une place sur d'autres événements. Enfin, c'est juste une petite
parenthèse. C'est ça, vous voulez aussi continuer un petit peu les partenariats comme avec les Nuits Sonores, que vous avez organisé un bal ou ce genre de choses?
Ouais, on est vraiment toujours intéressé par tout ça. Et on a aussi développé, du fait de ce festival et des gens avec lesquels on a travaillé, une activité de production d'installations, notamment une qui s'appelle le Luminon, qu'on a présenté à la Fête des Lumières sur la place Colbert et qui a bien marché. Donc voilà, c'est qu'on va essayer de revendre ailleurs. Enfin voilà, on diversifie un peu nos activités autour de tout ça pour que ça fasse du sens. Mais voilà, nous, on est vraiment persuadés que c'est une bonne voie vers laquelle se tourner. Après, les soirées, on en continuera d'en faire ponctuellement, mais moins souvent parce qu'aussi, il y a beaucoup de collectifs qui sont très actifs à Lyon et que nous, on a envie un peu, voilà, de...
Il y a déjà pas mal de boulot, j'imagine, pour la préparation de ça, quoi.
Clairement, c'est beaucoup de boulot. Et si on veut continuer à essayer de le développer, à pérenniser l'événement, ça va être encore plus de boulot dans les mois et peut-être, je l'espère, années à venir.
Bah écoute, Simon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté le Mirage Festival. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices qui peuvent retrouver les infos sur le site de Dolus et Dolus ou sur le site consacré au Mirage Festival. Et puis du coup, bah, on s'écoute un dernier morceau. Alors, tu nous as concocté un petit programme un peu plus électro pour finir,
c'est ça ? Ouais, bah c'est Conforce qui passera sur la dernière soirée, donc le samedi, qui est hollandais, qui est sur le label Delsin, donc la Delsin Night du samedi soir, qui là, pour le coup, est un morceau à l'image de cette soirée, qui sera plus techno. Et voilà, ça représente bien ce qui se passera sur cette soirée.
Et bah c'est parti, on écoute ça et on se retrouve bientôt sur Brume pour d'autres aventures. Et aussi, peut-être qu'on ira faire un tour au Mirage Festival, faire quelques reportages.